Les Mille et Une Nuits, tome 9, chapitre 7. Histoire d'Ali Mohammed, le joaillier, ou du faux calife. Le calife Haroun al-Rachid, étant sorti secrètement un soir de son palais, comme cela lui arrivait quelquefois, déguisé en marchand et accompagné de Jafar et de Mesrour, qui avaient pris le même déguisement, parcourut avec eux plusieurs quartiers de Bagdad et se trouva sur les bords du Tigre. Ayant aperçu un vieillard assis dans une barque, le calife s'approcha de lui, le salua très poliment et le pria, en lui présentant une pièce d'or, de les prendre dans sa barque et de les promener un moment sur le fleuve. « Seigneur, répondit le vieillard, en mettant dans sa poche la pièce d'or qu'on lui avait offerte, il m'est impossible de vous procurer ce plaisir, car le calife Haroun al-Rachid vient ici tous les soirs prendre le frais et se promener en gondole. Il est accompagné d'un héros qui publie à haute voix « Défense à toute personne, de quelque rang et de quelque qualité qu'elle soit, grands ou petits, jeunes ou vieux, de traverser le Tigre sous peine de perdre la tête ou d'être attachés au mât de leur vaisseau. » Vous arrivez justement au moment où sa gondole va passer, et je vous conseille de vous retirer sur le champ. » Le calife et Jafar, fort étonnés de ce qu'ils entendaient, présentèrent chacun une pièce d'or au vieillard et le prièrent de les laisser entrer sous des planches qui formaient une espèce de cabane au milieu de son bateau, en attendant que la gondole fût passée. Le vieillard prit les deux pièces d'or en se recommandant à Dieu, fit entrer le calife et ses compagnons dans son bateau et s'éloigna un peu du rivage. À peine avait-il donné quelques coups d'aviron qu'ils virent s'avancer au milieu du Tigre une gondole décorée avec la plus grande magnificence et éclairée par un grand nombre de torches et de flambeaux. « Ne vous l'avais-je pas bien dit ? » s'écria le vieillard tout tremblant. Ayant aussitôt quitté son aviron, il fit passer les faux marchands sous les planches qui couvraient une partie de son bateau et étendit alentour une toile noire à travers laquelle ils pouvaient jouir de la vue du spectacle qui s'offrait à leurs regards. Sur le devant de la gondole était un esclave tenant une cassolette d'or pur où brûlait du bois d'aloès. Il était couvert d'une tunique de satin rouge rattachée par une agrafe d'or sur une des épaules. Il avait sur sa tête un turban d'une mousseline extrêmement fine et portait en bandoulière un petit sac de soie verte, brodé en or, où était renfermé le bois d'aloès qu'il mettait dans sa cassolette. Un autre esclave, vêtu de la même manière et chargé d'une fonction pareille, était assis à l'autre extrémité de la gondole. À droite et à gauche étaient rangés 200 esclaves couverts d'habits magnifiques, et au milieu d'eux s'élevait un trône d'or sur lequel était assis un jeune homme dont la grâce et la beauté effaçaient l'éclat dont il était environné. Il était vêtu d'une robe noire, brodée d'or et de diamants. Il avait au-dessous de lui un homme qui ressemblait parfaitement au grand vizir Jafar. Derrière lui, un esclave debout, l'épée nue à la main, jouait à s'y méprendre le rôle de Mesrour, chef des eunuques. Autour de lui paraissaient ranger ses courtisans et ses favoris au nombre de 20. Le calife, extrêmement surpris d'un pareil spectacle, dit à son grand vizir : « Que penses-tu de cette aventure ?»« Souverain commandeur des croyants, répondit Jafar, je ne reviens pas de mon étonnement et je ne conçois rien à une pareille rencontre. » C'est sans doute, reprit le calife, un de mes fils, Al-Mamoun ou Al-Amine qui veut s'amuser. » Comme la barque passait dans ce moment à peu de distance de l'endroit où il se trouvait, le calife fixa avec plus d'attention le jeune homme assis sur le trône d'or. Ses traits et sa beauté, sa taille et son maintien, une certaine dignité répandue sur toute sa personne et le cortège dont il était entouré, le charmèrent au point qu'il ne put s'empêcher de dire à Jafar : « En vérité, vizir, il me semble voir la pompe et la magnificence qui m'environnent au milieu de ma cour. Il n'y manque absolument rien. Ne dirait-on pas que c'est toi-même que voilà ? » en montrant le personnage qui était en face du jeune homme. « Ne prendrait-on pas cet esclave pour Mesrour ? Et ses courtisans ne ressemblent-ils pas exactement à ceux qui m'entourent ? Je l'avoue franchement, ce que je vois ici embarrasse mon esprit, et je ne sais si je rêve ou si je suis éveillé. » « Je suis dans la même perplexité, répondit le vizir, et mes idées se confondent tellement que si je ne me trouvais pas auprès de votre majesté, Je serais tenté de douter en ce moment si je suis le véritable Jaffa. » La barque s'étant éloignée et ayant bientôt disparu à leurs yeux, le vieillard, qui était resté muet et tout tremblant pendant qu'elle passait, s'écria en reprenant son aviron. « Dieu soit loué! Heureusement personne ne nous a aperçus et nous sommes maintenant hors de danger !»« Vieillard, reprit Haroun, ne nous as-tu pas dit que le calife vient prendre le frais tous les soirs sur le tigre ?»« Oui, seigneur, répondit le vieillard, et depuis un an il n'a jamais manqué d'y venir exactement. » « Eh bien, bonhomme, continua le calife, si tu veux nous faire le plaisir de nous attendre ici demain à pareille heure, nous te donnerons 5 pièces d'or pour ta peine. Comme nous sommes étrangers dans ce pays, nous ne serons pas fâchés de jouir des plaisirs et des divertissements qu'il pourra nous procurer, et surtout, nous serons flattés de pouvoir nous promener sur le canal. » Le vieillard, entraîné par l'appât du gain, promit au calife qu'il prenait ainsi que ses compagnons pour des marchands étrangers, de se trouver le lendemain au même endroit, à l'heure convenue, et il les mit à terre en les comblant de bénédictions. Le calife, Jaffar et Mesrour reprirent le chemin du palais et y rentrèrent aussi secrètement qu'ils en étaient sortis. Ils quittèrent le costume de marchand et reprirent chacun leurs vêtements ordinaires. Le lendemain, le divan s'étant assemblé, les vizirs, les émirs, les gouverneurs des provinces et tous les grands de l'empire vint rendre leur hommage ordinaire au calife, qui prolongea la séance jusqu'à la fin du jour. Lorsque chacun se fut retiré, le calife dit à Jaffar, « Allons, vizir, je suis impatient de voir l'autre calife. »« Mesrour et moi, répondit le vizir en riant, nous sommes prêts à aller représenter nos respects à sa majesté. » Et s'étant alors déguisés tous les trois en marchant, comme la veille, ils sortirent du palais par une petite porte secrète qui donnait sur le tigre, et s'approchèrent gaiement de la rive où ils trouvèrent le vieillard qui les attendait dans sa barque. À peine y étaient-ils entrés, qu'ils aperçurent de loin la gondole du faux calife qui s'avançait vers eux. L'ayant considérée avec attention, ils virent, quand elle s'approcha d'eux, qu'elle était bordée de 200 esclaves différents de ceux de la veille, et ils entendirent le héros publier à haute voix la défense accoutumée. « Parbleu, dit le calife, je n'aurais jamais pu croire une pareille chose si je n'en avais été moi-même témoin, et si je n'avais entendu cette proclamation de mes propres oreilles. Vieillard, ajouta-t-il ensuite, en s'adressant au patron, tiens, prends ces 10 pièces d'or et conduis-nous derrière eux. Tu n'as rien à craindre, car l'éclat des flambeaux qui éblouissent leurs regards les empêchera de nous distinguer dans l'obscurité à une certaine distance d'eux, et nous pourrons aisément les observer sans qu'ils s'en aperçoivent. Le vieillard prit les 10 pièces d'or, détacha sa barque et la dirigea dans l'ombre produite par la gondole que montait le faux calife. Lorsqu'ils furent hors de la ville et qu'ils eurent gagné les maisons de plaisance et les jardins qui sont aux environs, la gondole s'approcha du rivage et aborda au fond d'un golfe qui formait un bassin naturel au-devant d'une terrasse magnifique, éclairée, ainsi que les jardins qui étaient au-delà, par une multitude infinie de feux de diverses couleurs. Le faux calife, ayant sauté légèrement à terre, monta sur une mule qu'on lui tenait toute prête et s'avança au milieu des 2 files d'esclaves qui portaient des flambeaux et qui faisaient retentir l'air des cris de « Vive le souverain commandeur des croyants ! Que Dieu prolonge son règne et le comble de ses bénédictions !» Haroun al-Rachid, Jaffar et Mesrour, étant descendus à quelque distance sur le rivage, s'approchèrent du cortège et se mêlèrent dans la foule. Quelques esclaves ayant aperçu 3 personnages qu'ils ne connaissaient pas et qui paraissaient être des marchands, les arrêtèrent et les conduisirent sur le champ au faux calife. « Qui êtes-vous ? » leur demanda-t-il en les fixant attentivement. « Comment êtes-vous venus jusqu'ici ? Et quelle affaire peut vous y amener à l'heure qu'il est ?»« Seigneur, répondit Jaffar, « nous sommes des marchands étrangers qui retournons dans notre pays. Nous sommes partis ce soir de Bagdad dans l'intention de marcher toute la nuit. Nous suivions notre chemin lorsque vos gens nous ont rencontrés. Ils se sont saisis de nous et nous ont amenés devant vous. « Rassurez-vous, leur dit le faux calife avec bonté. Vous n'avez rien à craindre puisque vous êtes étrangers. Mais si par malheur vous eussiez été de Bagdad, je vous aurais fait trancher la tête sur l'heure. » Se tournant ensuite vers son grand vizir, « Chargez-vous de ces messieurs, lui dit-il, car je les invite ce soir à souper avec moi. » Le grand vizir, ayant fait une profonde inclination en signe d'obéissance, fit placer les trois marchands à ses côtés, et le cortège continua de s'avancer vers un superbe palais dont le faîte se perdait dans les nues, et que sa structure et son élégance auraient fait prendre pour la demeure d'un des plus puissants monarques de la terre. La porte principale était de bois d'ébène, recouvert de lames d'or. Au-dessus de cette porte, on lisait ces deux vers gravés en lettres d'or. Salut et bénédiction à ce palais, c'est le séjour du bonheur et des plaisirs. Toutes les merveilles de l'art et de la nature s'y trouvent réunies. En vain, on tenterait de les décrire. Cette porte donnait entrée dans un vestibule soutenu par des colonnes de marbre, au milieu duquel était un bassin aussi de marbre, d'où s'élevaient plusieurs jets d'eau. On passait de là dans différents appartements décorés de tapis et de rideaux d'un travail achevé. Et l'on parvenait ensuite dans une vaste salle où étaient rangés des sièges d'or massifs recouverts de coussins de brocart d'or et de soie. Le cortège, étant entré dans cette salle, le faux calife se plaça sous un dais de soie verte, brodé de perles et de diamants, au-dessous duquel était un trône d'ivoire rehaussé d'or, dont l'éclat et la magnificence le disputaient à ceux des Cosroès et des Césars. Le dais était entouré de rideaux de soie jaune, relevés avec grâce, et qui se baissaient à volonté avec une promptitude merveilleuse. Le faux calife, s'étant assis sur son trône, on plaça devant lui l'épée royale, et tous les courtisans se rangèrent au-dessous. On apporta ensuite plusieurs tables couvertes des mets les plus recherchés. Après que chacun eut mangé, on desservit et on présenta à laver dans des bassins d'or. On apporta ensuite à boire, l'on mit sur la table une multitude de vases de toute espèce, plus riches et plus précieux les uns que les autres, et on servit à la ronde les vins les plus exquis. L'esclave qui versait à boire aux convives, étant parvenu au calife Haroun, voulut remplir sa coupe. Mais ce prince la retira avec précipitation et attira par là sur lui les regards du faux calife. « Pourquoi donc votre camarade ne veut-il pas boire ? » demanda-t-il à Jaffar. « Il y a longtemps, seigneur, répondit Jaffar, qu'il n'a fait usage de cette boisson. « Eh bien, reprit le faux calife, il ne faut pas le gêner. Il y a ici toutes sortes de liqueurs. Qu'il demande librement celle qu'il a coutume de boire. » Haroun al-Rachid, ayant demandé une autre liqueur, le faux calife l'invita obligeamment à vouloir bien lui faire raison toutes les fois que son tour de boire arriverait. Ils passèrent ainsi une partie de la soirée à boire et à se divertir. Lorsque le vin eut commencé à échauffer les têtes, Haroun al-Rachid dit à Jaffar, « Mon étonnement augmente de plus en plus. Jamais on n'a servi dans mon palais un festin aussi somptueux ni aussi magnifique que celui où nous assistons ce soir. Je voudrais bien savoir dès à présent quel est ce jeune homme. » Le faux calife, voyant Haroun et Jaffar s'entretenir tous deux à voix basse, dit à Jaffar. « Vous devez savoir, mon hôte, que par les bas avec ses voisins et dans les assemblées, le défaut ordinaire de la malignité. » La malignité, repartit aussitôt Jaffar, ne peut trouver à s'exercer ici. Mon camarade me disait qu'il avait parcouru beaucoup de pays, qu'il avait été admis à la cour des plus puissants monarques et vécu familièrement avec les grands, mais que nulle part il n'avait reçu d'accueil aussi flatteur ni aussi distingué que celui que votre majesté a daigné lui faire ce soir, et que jamais tant de grandeur et de magnificence n'avait frappé ses regards. Il observe seulement qu'il a entendu répéter souvent à Bagdad « Rien de plus agréable en buvant que d'entendre de la musique. » Le discours de Jaffar fit sourire le faux calife, qui frappa aussitôt sur la table. La porte de la salle s'étant ouverte sur le champ, on vit paraître un esclave noir qui portait un siège d'ivoire incrusté d'or. Il était suivi d'une jeune esclave d'une beauté parfaite qui tenait entre ses mains un luth fabriqué dans les Indes. La jeune esclave, s'étant assise sur le siège d'ivoire qu'on avait mis au milieu de la salle, accorda son instrument et, après avoir préludé dans 24 tons, elle rentra dans celui par lequel elle avait débuté et chanta les paroles suivantes. L'amour vous parle par ma bouche et vous dit que je vous aime. Tout atteste la violence de ma passion. Mon cœur est blessé et les larmes coulent en abondance de mes yeux. Avant de vous voir, je ne connaissais pas l'amour. Tôt ou tard, il faut succomber à son destin. Le faux calife parut fort agité et comme hors de lui-même, tandis que la jeune esclave chantait. À peine eut-elle achevé qu'il poussa un grand cri et déchira sa robe du haut en bas. Les rideaux suspendus autour de lui se baissèrent aussitôt et on lui apporta une autre robe plus riche que la première. Le jeune homme, s'en étant revêtu, se remit comme il était auparavant et l'on continua à se divertir et à boire à la ronde. Lorsque le tour du faux calife fut venu et qu'on lui eut présenté la coupe, il frappa comme la première fois sur la table. La porte s'ouvrit et l'on vit entrer un esclave noir portant un siège d'or massif accompagnée d'une jeune esclave plus belle que la précédente. Elle s'assit sur le siège qu'on lui présenta, accorda le luth qu'elle tenait entre ses mains et se mit à chanter ces paroles. « Comment supporter l'état où je suis? Le feu de l'amour me consume et mes larmes forment un déluge perpétuel. La vie n'a plus de charme pour moi. Quel plaisir peut goûter un cœur navré de tristesse ?» Ces vers firent sur le faux calife le même effet que les premiers. Il poussa un grand cri et déchira sa robe du haut en bas. Les rideaux suspendus autour du trône s'abaissèrent. Il se revêtit d'une autre robe, reprit sa place comme auparavant et invita les convives à boire de nouveau. Lorsque son tour fut venu, il frappa pour la troisième fois sur la table. La porte s'ouvrit comme à l'ordinaire. Une jeune esclave dont la bonté surpassait celle des deux précédentes s'avança le luth à la main, précédée d'un esclave noir, s'assit au milieu de la salle et chanta ses vers. Cessez vos vains reproches et traitez-moi avec plus de justice. Mon cœur ne peut renoncer à vous aimer. Ayez pitié d'un malheureux dévoré d'ennui que vous avez réduit en esclavage. Je succombe à la violence du mal qui me consume. Vous seul pouvez m'arracher à la mort. Ô beauté dont l'image remplit mon cœur, comment vous oublier pour m'attacher à une autre? Le jeune homme, habillé en calife, parut, tandis qu'on chantait ses vers, plus violemment agité qu'il ne l'avait encore été. Il poussa, lorsqu'ils furent achevés, des cris si lamentables que le calife et Jaffar furent touchés de compassion. Il se calma néanmoins bientôt après, et l'on continua de verser à boire. Une quatrième chanteuse, ayant paru au signal du jeune homme, fit entendre ces paroles. Quand finira cet éloignement et cette injuste haine? Quand pourrais-je retrouver le bonheur dont j'ai trop peu joui? N'avons-nous pas vécu ensemble dans la plus douce union et fait envier à d'autres notre félicité? La fortune cruelle nous a séparés, mais mon cœur est toujours près de vous. Quand les liens qui nous attachent l'un à l'autre seraient anéantis, jamais je ne cesserai de vous aimer. Le jeune homme ne put résister à l'impression que firent sur lui ses vers, en lui rappelant vivement un amour malheureux. Après avoir jeté un grand cri, et déchiré ses habits comme auparavant, il s'évanouit et se laissa tomber à la renverse. Ses esclaves étant accourus pour le secourir, ayant oublié de baisser le rideau dans le trouble que cet événement leur causa, Harun al-Rachid s'aperçut que son corps était tout couvert de marques de coups de fouet. « Vizir, dit-il tout bas à Jaffar, après avoir considéré quelque temps ce spectacle, qu'est-ce que cela veut dire? Ce jeune homme si aimable et si intéressant en apparence, ne serait-il qu'un infâme brigand, et personne ne pourra-t-il ici m'instruire de ses aventures ?» Le jeune homme, étant revenu de son évanouissement, et s'étant revêtu d'autres habits, s'assit sur son trône et se mit à converser avec les convives comme auparavant. Ayant par hasard jeté les yeux sur Harun et Jaffar, et les voyant causer ensemble, il leur demanda ce qu'ils pouvaient avoir de si important à se communiquer pour se parler ainsi continuellement à l'oreille. « Si, répondit Jaffar, ce que me disait mon camarade peut sans crainte se répéter tout haut. En qualité de marchand, il a parcouru les principales villes du monde. Il a fréquenté les cours des rois et des souverains. Mais jamais il n'a vu chez aucun prince une prodigalité semblable à celle dont vous venez de nous rendre témoin en déchirant successivement plusieurs robes dont la moindre vaut plus de 500 pièces d'or. » Chacun, reprit le faux calife, peut disposer à son gré de ses richesses et de ce qui lui appartient. Ce que vous venez de voir est une des manières dont je témoigne ma libéralité à ceux qui m'entourent. Chaque robe que je déchire est pour quelqu'un des convives, qui reçoit, s'il veut en échange, 500 pièces d'or. Jaffar répondit aussitôt par ces deux vers. Tout ce que vous possédez est au reste des hommes. Les bienfaits ont bâti leur palais dans le creux de votre main. S'ils fermaient d'ailleurs leurs portes, vos doigts sauraient aisément les ouvrir. » Le compliment du grand vizir charma tellement le faux calife qu'il le fit revêtir à l'instant même d'un riche caftan et lui fit donner une bourse de 1000 pièces d'or. On recommença ensuite à boire et à se divertir. Haroun al-Rachid prenait cependant peu de part à la joie qui animait tous les convives et était toujours occupé du spectacle qui avait frappé ses regards. Ne pouvant plus réprimer sa curiosité, il ordonna à Jaffar de demander au jeune homme pour quel motif on l'avait ainsi déchiré à coups de fouet. Le vizir ayant représenté à son maître qu'une pareille demande pouvait être déplacée dans ce moment et qu'il devait attendre au lendemain pour s'instruire de ce qu'il désirait savoir, « J'en jure par ma tête, lui répondit Haroun, et par le tombeau d'Abbas, si tu n'interroges pas à l'instant ce jeune homme, tu ressentiras bientôt les effets terribles de mon courroux. » Le faux calife ayant en ce moment regardé Haroun et Jaffar, leur demanda quel était le sujet de leur altercation. « Ce n'est rien, sire, répondit Jaffar, en tâchant d'éluder la question. « Je veux absolument le savoir, reprit le calife, et je vous conjure de ne rien me cacher. » « Mon camarade, dit alors Jaffar, croit avoir aperçu sur votre corps des marques de coups de fouet. Cette vue l'a singulièrement étonné. Comment, m'a-t-il dit, un calife peut-il avoir été ainsi maltraité ? Mon camarade désirerait connaître la cause d'un événement aussi extraordinaire, et j'espère que votre majesté voudra bien lui pardonner sa hardiesse et sa curiosité. » Le faux calife, loin de paraître offensé d'une pareille question, dit en souriant. « Je vois bien, seigneur, que vous êtes des personnages d'un rang supérieur à celui que votre extérieur annonce, et je soupçonne fort que celui d'entre vous qui manifeste une curiosité si vive est le calife Haroun al-Rachid lui-même, et qui, pour s'amuser, a quitté son palais, déguisé en marchand, ainsi que son grand vizir Jaffar, et Misrour, le chef de ses eunuques. « Bannissez, seigneur, une pareille pensée de votre esprit !» s'écria vivement Jaffar en l'interrompant. « De pauvres marchands comme nous ne méritent pas qu'on les honore d'un pareil soupçon. » « Si mon soupçon est bien fondé, reprit le jeune homme, cette rencontre est ce que je désirais le plus, et j'espère qu'elle mettra fin à mon malheur. Quoi qu'il en soit, continua-t-il en souriant, je commencerai par vous dire que je ne suis point le souverain commandeur des croyants, et je ne prends tous les soirs ce costume que pour me distraire et charmer les tourments que me fait éprouver une personne plus belle que les astres. Quoique séparée d'elle, ses grands yeux noirs, ses joues de rose, les arcs de ses sourcils sont toujours présents à mon esprit. Mais avant de vous parler d'elle, je dois vous faire connaître qui je suis. Je m'appelle Ali, fils de Mohammed le joaillier. Mon père, qui était un des plus riches marchands de Bagdad, me laissa à sa mort maître d'une fortune immense, consistant en or et argent, en pierreries, en rubis, en émeraudes et en diamants de toute espèce. Je possédais de vastes jardins et des terres à revenus considérables, et j'avais à mon service un grand nombre d'esclaves de l'un et de l'autre sexe. Un jour, que j'étais dans mon magasin, occupé à régler mes comptes avec mes commis et mes serviteurs, une jeune dame montée sur une mule et accompagnée de 3 jeunes esclaves d'une grande beauté, s'arrêta devant ma porte, descendit légèrement à terre, entra dans mon magasin et s'assit. « N'êtes-vous point, me dit-elle, le seigneur Ali, fils de Mohammed le joaillier ?»« Prête à vous obéir, madame, lui répondis-je. Qu'y a-t-il pour votre service ? » « Auriez-vous, reprit-elle, un collier de diamants qui pût me convenir ?»« Madame, lui dis-je, je vais vous faire apporter tout ce que j'ai chez moi. Si quelqu'un d'eux vous convient, votre esclave s'estimera trop heureux. Si au contraire il n'en est aucun qui soit de votre goût, ce sera pour votre esclave un malheur bien sensible. » J'avais dans mon magasin 100 colliers de diamants. Je les fis apporter les uns après les autres, et je les étalai devant elle. Lorsqu'elle les eut tous bien considérés, elle me dit qu'elle n'en trouvait aucun à son goût, et qu'elle en désirait un plus riche et plus beau que ce qu'elle venait de voir. Je possédais encore, heureusement, un petit collier que mon père avait acheté 100 000 pièces d'or et qui surpassait en éclat tout ce que les plus puissants monarques avaient de plus précieux. « Je suis désolée, madame, lui dis-je, qu'aucun des objets que je vous ai montrés ne puisse vous convenir. Il ne me reste plus qu'un petit collier de perles fines et de diamants, mais si beau et d'un travail si achevé que je ne crois pas qu'aucun grand de la terre en possède un pareil. Voyons-le, me dit-elle avec empressement. La jeune dame n'eut pas plutôt vu le petit collier que j'avais été chercher qu'elle s'écria, « Voilà justement le collier que j'ai toujours désiré. De quel prix est-il ?
Mon père, lui dis-je, l'a payé 100 000 pièces d'or.
Eh bien, je vous en offre 5 000 de plus. Êtes-vous content ? Me dit-elle.
Madame, m'écriai-je, le collier et son maître sont entièrement à votre disposition.
Vous êtes trop galant, seigneur, dit-elle en se levant. Si vous voulez me faire l'honneur de m'accompagner jusque chez moi, je vous ferai compter le prix de votre collier et peut-être ne vous repentirez-vous pas de votre complaisance. Je me levai aussitôt, transporté de joie. Et ayant ordonné à mes esclaves de fermer mon magasin, je présentai la main à la jeune dame pour l'aider à remonter sur sa mule. Et je l'accompagnai jusqu'à la porte d'une maison de grande apparence, où elle descendit en me priant d'attendre un moment, jusqu'à ce qu'elle eût fait avertir son banquier. À peine était-elle entrée dans la maison, qu'une jeune esclave vint m'inviter à entrer sous le vestibule, en me disant qu'il ne convenait pas qu'une personne comme moi restât à attendre à la porte. Un moment après, une autre esclave vint me dire que sa maîtresse me priait de passer dans le salon pour recevoir mon argent. J'entrai dans la maison, précédé de l'esclave qui me conduisit dans le salon et me fit asseoir. Au milieu du salon était un trône d'or, surmonté d'un dais et entouré de rideaux de soie. J'étais à peine assis que les rideaux s'ouvrirent et me laissèrent voir la jeune dame qui parut, à mes yeux éblouis, comme un astre rayonnant de lumière. Sa beauté était encore relevée par l'éclat d'une parure magnifique et surtout par la richesse du collier que je lui avais vendu. La vue de tant d'attraits fit sur moi une impression si vive que je parus un moment interdit et immobile. Aussitôt que la jeune dame m'aperçut, elle se leva de dessus son trône et s'avança vers moi d'un air riant. « Seigneur Ali, me dit-elle, votre douceur et votre honnêteté me plaisent infiniment. »«
Madame, lui répondis-je, enhardi par un accueil aussi gracieux, c'est à vous seule qu'il appartient de plaire, car vous réunissez tout ce que peut captiver les cœurs, et il est impossible de vous voir sans éprouver l'effet de vos charmes. »
La jeune dame parut plus sensible à mon compliment que je n'aurais osé l'espérer. Je crus reconnaître qu'elle ne m'avait pas vue d'un œil indifférent, et elle m'en donna bientôt elle-même l'assurance. « Il est inutile, me dit-elle, de vous cacher plus longtemps les sentiments que vous m'avez inspirés. La manière dont je vous reçois vous montre assez à quel point vous m'intéressez. » Ces mots furent comme un trait de feu qui pénétra jusqu'au fond de mon cœur. Je peine à contenir mes transports, et je lui peignis avec vivacité tout l'amour dont je me sentais de plus en plus embrasée. « Savez-vous, me dit alors la jeune dame, à qui vous adressez ce langage ?»«
Madame, lui répondis-je, cette connaissance ne pourrait rien changer à mon amour. »«
Apprenez, reprit-elle, que ma naissance et mes sentiments ne me permettent d'écouter d'autre amour qu'un amour honnête et légitime. »« Je suis la princesse Dounia, fine Diaya M. Khaled el-Barmaki, et sœur du grand vizir Jaffa. » Ce discours me causa une surprise extrême. Je fis quelques pas en arrière et tâchai de m'excuser en disant « Pardonnez, madame, mon indiscrétion, pardonnez un aveu que j'aurais pour jamais renfermé dans mon âme si j'avais connu plus tôt le haut rang dans lequel vous êtes née. Les bontés que vous avez daigné me témoigner m'ont aveuglée, je l'avoue, elles seules peuvent me servir d'excuse. »
« Ne cherchez pas à vous excuser, reprit en riant la princesse. Je ne vous aurais pas fait la première, l'aveu de mes sentiments, si je n'avais dessein de vous prendre pour époux.
Puisque nos deux cœurs s'entendent si bien, rien ne saurait s'opposer à notre union. Je puis disposer de ma personne, et le cadi ne me refusera pas son ministère. » En achevant ces mots, la belle Dounia commanda qu'on allât chercher le cadi et des témoins. Lorsque le cadi et les témoins furent arrivés, Dounia leur dit « Le seigneur Ali, ici présent, fils de Mohammed, le joaillier, m'a demandé ma main. Je la lui ai accordée et j'ai reçu en dot le collier que voici. » Le contrat étant dressé, le cadi se retira et l'on servit un repas composé des mets les plus exquis et les plus délicats. 10 jeunes esclaves, toutes d'une rare beauté, vêtues de la manière la plus élégante, s'empressaient de prévenir nos moindres volontés. Sur la fin du repas, la princesse Dounia ordonna aux jeunes esclaves de chanter. L'une d'elles commença ainsi. « Mon cœur et mes vœux sont soumis à votre empire. Je ne désire autre chose au monde que de vous plaire. Qu'il est doux de passer sa vie près de l'objet qu'on aime, de le voir, de l'entendre, et de pouvoir sans cesse lui dire tout ce que sa beauté nous inspire. » Les autres esclaves célébrèrent pareillement dans leur chant notre union et mon bonheur. Lorsqu'elles eurent fini, la princesse Dounia prit elle-même un luth, et chanta ses vers.
J'en jure par le plaisir qu'on goûte auprès de vous, mon amour est égal à l'ardeur brûlante du midi. Ayez pitié d'une esclave aux yeux de laquelle vous effacez le reste des hommes. Le reflet de la liqueur contenue dans ce verre donne à votre image l'éclat de la rose mêlée à la beauté du myrte. Lorsqu'elle eut achevé, elle me présenta l'instrument. Je le pris, et je répondis par ce compliment à celui qu'elle m'avait adressé. Le ciel vous a donné en partage la beauté tout entière. Qui pourrait vous être comparé? Vos yeux sont faits pour enchaîner tous les mortels. J'ai ressenti leur pouvoir magique. Vos joues rassemblent le feu et l'eau, et les roses y croissent naturellement. Je vivais ainsi depuis un mois, enfermée avec la belle Dounia, uniquement occupée du bonheur de la posséder, et oubliant auprès d'elle mon magasin, mes esclaves, mes connaissances et le soin de mes affaires. « Mon cher Ali, me dit un jour la princesse, il faut nécessairement que je sorte aujourd'hui pour aller au bain. Mais j'exige de vous la promesse de rester sur ce sofa, ou du moins de ne pas sortir de ce salon avant mon retour. » Comme c'était un bonheur pour moi de satisfaire ses moindres désirs, je lui jurai sans peine de lui obéir à cet égard. Sur cette assurance, elle partit, accompagnée de toutes ses esclaves. À peine était-elle au bout de la rue que la porte du salon s'ouvrit. Une vieille femme s'avança vers moi et me dit en s'inclinant profondément « Seigneur Ali, la sultane Zobéide, ma maîtresse, désire vous entretenir un moment. Elle a entendu parler de votre mérite, surtout de votre talent pour la musique, et elle brûle d'envie de vous entendre chanter. « Il m'est impossible de sortir, répondis-je à la vieille, avant le retour de ma chère Dounia. Qu'y pensez-vous, Seigneur ? Reprit la vieille. Et voulez-vous, en vous refusant au désir de la sultane Zobéide, exciter sa colère et vous exposer aux effets de son ressentiment? Vous connaissez sa puissance et le crédit qu'elle a sur l'esprit du calife. Votre refus peut avoir les plus dangereuses conséquences pour vous et pour votre épouse. Venez, croyez-moi, parler à la sultane. Vous serez de retour dans un moment. » Je me levai aussitôt, quoiqu'avec répugnance, pour suivre la vieille qui marchait à grands pas devant moi. Elle me conduisit au palais de la sultane et me fit entrer dans son appartement. « C'est donc vous, dit la sultane en me voyant, qui avez su fixer le cœur de la princesse Dounia ?»« Madame, lui répondis-je, votre esclave a été assez heureux pour attirer sur lui les regards de la princesse. »« Je n'en suis pas surprise, reprit la sultane. J'ai beaucoup entendu parler de votre bonne mine et de vos talents. Votre extérieur ne dément pas l'éloge qu'on m'a fait de vous, en vous peignant sous les traits les plus aimables. Je désirerais pareillement connaître vos talents pour la musique et vous entendre chanter seulement un air. » Je m'inclinai profondément en signe d'obéissance. On m'apporta aussitôt un luth et je chantai ce couplet que j'avais composé pour ma princesse. Le cœur d'un amant est dévoré par son amour et son corps est en proie à la langueur qui le consume. Le ciel a remis entre mes mains un astre que j'adore lors même qu'il se couvre de nuages. Je suis soumise à toutes ses volontés et je chéris dans toutes ses actions celle qui m'est chère. Zobéide trouva les vers fort à son gré et m'adressa des compliments très flatteurs sur la beauté et la pureté de ma voix. « Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, me dit-elle ensuite. Votre épouse peut rentrer pendant votre absence et je serai désolée que votre complaisance pour moi vous brouillât avec elle. » Je pris donc congé de la sultane en faisant des vœux pour son bonheur. Et, précédée de la vieille, je me hâtai de regagner le palais de la princesse. Malheureusement pour moi, mon épouse était déjà de retour. J'entrai en tremblant dans ce salon dont je ne devais pas sortir, et je la trouvai couchée sur le sofa, paraissant dormir profondément. Je m'approchai doucement et m'assis auprès d'elle. Mais malgré toutes les précautions que je prenais pour ne pas la réveiller, elle ouvrit les yeux, et m'ayant aperçue, elle me donna un si furieux coup de pied qu'elle me jeta par terre. « Perfide, me dit-elle, c'est donc ainsi que tu tiens tes promesses? Tu as été chez la sultane Zobéide, malgré le serment que tu m'avais fait de ne pas sortir? Si je n'écoutais que mon ressentiment et ma jalousie, je ferais mettre le feu au palais de la sultane et je l'ensevelirais sous ses débris. » Dounia se leva ensuite d'un air furieux et appela Sawab. Je vis aussitôt paraître un grand esclave noir tenant une épée nue à la main. « Sawab, lui dit-elle, saisis ce traître, ce perfide, et tranche-lui la tête sur le champ. » Sawab se mit aussitôt en devoir d'exécuter cet ordre barbare. Il me saisit au collet d'une main vigoureuse, me banda les yeux et était prête à me faire voler la tête de dessus les épaules
lorsque toutes les jeunes esclaves se précipitèrent aux pieds de leur maîtresse et la supplièrent de ne pas me faire périr.
« Madame, lui disait-elle, il ne connaissait pas encore votre caractère. Sa faute n'a point été préméditée. C'est une faute involontaire dans laquelle il était entraîné et qui ne mérite pas la mort. »
« Je veux bien, dit la princesse, après s'être longtemps fait prier, ne pas verser son sang. Mais il faut qu'il soit puni et qu'il porte des marques de ma vengeance, qu'il lui rappelle sans cesse son crime et sa trahison.
« Dépouille-le, dit-elle à l'esclave noir, et donne-lui sur le champ 100 coups de fouet. »
L'esclave ne s'acquitta que trop bien de l'ordre qu'il venait de recevoir. Il me déchira les flancs et les épaules de la manière la plus barbare, et me mit dans un état capable de toucher de pitié le cœur le plus cruel. Mais la princesse, insensible à mes cris, lui ordonna de me mettre à la porte et me signifia de ne plus reparaître chez elle. Comme j'étais étendu par terre, baigné dans mon sang, et qu'il m'était impossible de me lever seul, deux esclaves robustes me prirent entre leurs bras, me portèrent dans la rue, où ils me laissèrent étendu, presque sans connaissance, et refermèrent la porte sur eux. Je repris peu à peu mes esprits. Je me levai avec beaucoup de peine, et je marchai, ou plutôt je me traînai jusqu'à ma maison. Je fis venir un chirurgien qui pansa mes plaies et les guérit. Mais il ne put faire disparaître les traces des coups que vous avez aperçus sur mon corps. Lorsque je fus parfaitement rétabli et que je pris plusieurs bains, je me rendis à mon magasin et je vendis toutes mes marchandises. J'achetai 400 esclaves si bien choisis que les plus grands princes n'en possèdent pas de plus beaux et de mieux faits. 200 de ces esclaves devaient m'accompagner un jour et les autres le lendemain. Je leur distribuai les divers emplois de la cour et je leur assignai des pensions. Je fis ensuite construire la gondole dans laquelle vous m'avez vu, qui me coûta 1200 pièces d'or. Et j'imaginai de venir me promener tous les soirs sur le Tigre en me faisant passer pour le calife. J'espérais que ce stratagème, venant bientôt à la connaissance du grand Haroun al-Rachid, exciterait sa curiosité et me procurerait bientôt l'occasion de lui raconter ma funeste aventure. Depuis près d'un an, j'attends cette heureuse occasion. Et pendant tout cet espace de temps, je n'ai appris aucune nouvelle de celle qui m'est impossible d'oublier et sans laquelle je ne puis plus vivre. Le jeune homme, en achevant ces mots, répandit un torrent de larmes et récita des vers qui peignaient fortement la violence de son amour. Le calife Haroun al-Rachid fut vivement touché de cette aventure et se promit bien de faire en cette occasion un acte de justice et de rendre au jeune homme le seul bien qui pouvait faire son bonheur. Il lui témoigna l'intérêt que son récit lui avait inspiré et lui demanda la permission de se retirer ainsi que ses compagnons. Le jeune homme ne voulut pas les laisser partir sans qu'ils eussent accepté quelques présents qui devaient, disait-il, leur rappeler le souvenir de ses malheurs et de la soirée qu'ils avaient passée ensemble. Ils les acceptèrent, prirent congé de lui et rentrèrent secrètement au palais. Avant de se retirer dans son appartement, le calife donna ordre à Jaffar de lui amener le jeune homme dès qu'il ferait jour. Le vizir se transporta le lendemain de grand matin chez Ali et le prévint que le calife désirait lui parler. Le jeune homme, entendant prononcer le nom du calife, fit l'éloge de ses vertus et témoigna beaucoup de joie de paraître en sa présence. Il partit aussitôt avec Jaffar, qui le fit entrer dans l'appartement où Haroun les attendait. Le jeune homme reconnut aussitôt le calife, qu'il avait rencontré la veille, déguisé en marchand. Il ne parut aucunement déconcerté de cette découverte, se prosterna la face contre terre et adressa au prince un compliment très agréable qui finissait par ces vers. « Votre cour est un temple qu'on visite sans cesse. Le sol en est plus foulé que celui qui entoure le puits de Zemzem. Pourquoi ne pas faire publier partout « C'est ici le séjour d'Abraham. Haroun est un autre Abraham ?» Haroun al-Rachid ne put s'empêcher de sourire. Il reçut fort bien le jeune homme, le fit asseoir à ses côtés et lui témoigna qu'il était très sensible à ses malheurs. Le jeune homme rougit et pria le calife de lui pardonner le stratagème dont il s'était servi pour les lui faire connaître. « Voulez-vous, lui dit alors le calife, que je vous réunisse à votre épouse ?»« Ô ciel !» s'écria le jeune homme en versant des larmes de joie et pouvant à peine contenir ses transports. « Je serai aujourd'hui le plus heureux des hommes si la princesse Dounéa veut bien consentir à me recevoir pour époux. Et je tâcherai par tous les moyens possibles d'effacer de sa mémoire le souvenir de la faute que j'ai commise en contrevenant à ses ordres. » Le calife de plus en plus convaincu de l'extrême passion que le jeune homme avait conçue pour la princesse, se tourna vers Jaffar et lui dit « Allez, vizir, cherchez votre sœur et me l'amenez sur le champ. » Le vizir obéit et rentra bientôt après accompagné de sa sœur. « Belle Dounia, lui dit le calife, reconnaissez-vous ce jeune homme ?»«
Si, répondit en souriant Dounia, comment pourrais-je le connaître ?»«
Il est inutile de feindre, reprit le calife. Je suis informé de tout, et je sais toutes les circonstances de cette aventure, depuis la première jusqu'à la dernière. »
Ce qui s'est passé, repartit Dounia en rougissant, était écrit dans le livre des destinées. J'en demande pardon à Dieu et à votre majesté.
Puisque vous convenez de vos torts, dit le calife en souriant, le cadi va prononcer votre sentence et vous condamner à la peine que vous avez méritée.
Le cadi et les témoins étant arrivés, Ali reçut des mains du calife la princesse Dounia et l'épousa une seconde fois. Ils passèrent le reste de leurs jours dans une union parfaite et le calife mit Ali au nombre de ses plus intimes confidents.
Le sultan des Indes ne pouvait s'empêcher d'admirer la mémoire prodigieuse de la sultane, son épouse, qui ne s'épuisait point et qui lui fournissait toutes les nuits de nouveaux divertissements par tant d'histoires différentes. Mille et une nuits s'étaient écoulées dans ces innocents amusements. Ils avaient même beaucoup aidé à diminuer les préventions fâcheuses du sultan contre la fidélité des femmes. Son esprit était adouci. Il était convaincu du mérite et de la grande sagesse de Scheherazade. Il se souvenait du courage avec lequel elle s'était exposée volontairement à devenir son épouse, sans appréhender la mort à laquelle il savait qu'elle était destinée le lendemain, comme les autres qui l'avaient précédée. Ces considérations et les autres belles qualités qu'il connaissait en elle le portèrent enfin à lui faire grâce. « Je vois bien, lui dit-il, aimable Scheherazade, que vous êtes inépuisable dans vos petits contes. Il y a assez de temps que vous m'en divertissez. Vous avez apaisé ma colère, et je renonce volontiers en votre faveur à la loi cruelle que je m'étais imposée. Je vous remets entièrement dans mes bonnes grâces, et je veux que vous soyez regardée comme la libératrice de toutes les filles qui devaient être immolées à mon juste ressentiment. » La princesse se jeta à ses pieds, les embrassa tendrement, lui donnant toutes les marques de la reconnaissance la plus vive et la plus parfaite. Le grand vizir apprit le premier cette agréable nouvelle de la bouche même du sultan. Elle se répandit bientôt dans la ville et dans les provinces. Ce qui attira au sultan et à l'aimable Scheherazade, son épouse, mille louanges et mille bénédictions de tous les peuples de l'Empire des Indes. Fin du tome 9e et dernier.